Bruno de Stabenrath, vous publiez votre dernier livre en date, alors qui est un livre en forme de
d'autofiction.
En forme de d'injonction comme ça. Ouais. Je n'ai pas de rôle pour vous. Alors si on prend cette phrase là dans le sens le plus large possible, est-ce que ce n'est pas finalement un questionnement que la vie aurait pu vous poser?
Ah, tout à fait. C'était le c'est-à-dire, c'est ce qu'on se pose quand on a 13, 14, 15 ans, qu'on est encore chez les parents, on se dit, mais est-ce que j'aurai une vie heureuse? Quel rôle attend-on de moi? Alors, dans une famille nombreuse, un peu aristocrate versaillaise, on attend à ce que vous fassiez Saint-Cyr, enfin des grandes études, des grandes écoles. Moi, j'avais pas envie du tout. Donc, j'attendais une réponse, qu'on me donne un rôle, qu'on me fascine, qu'on me pose la main sur l'épaule. Et finalement, c'est venu de la part de quelqu'un que je ne connaissais pas, et, qui était François Truffaut.
Voilà, voilà. Alors, l'ambiguïté de ce livre, il se dit roman, vous l'avez intitulé roman, oui. Vous avez voulu qu'il soit roman, mais il y a une telle part d'autobiographie qu'on peut se demander quelle est la part qu'a apporté le côté littéraire de l'écriture à l'investigation autobiographique à laquelle vous êtes livré.
Bah, c'était un vrai, pour moi c'était forcément une autofiction comme il en existe beaucoup, c'est-à-dire un vrai travail à la fois de souvenir, de réel et d'imaginaire, mais je voulais aussi rendre hommage à Truffaut. Et Truffaut dans ses films, toute la série des Douanel, il savait merveilleusement faire ça, c'est-à-dire entre ses mélanges de souvenirs, de ses aventures d'amour vécues dans L'homme qui aimait les femmes, il savait très bien mélanger tout ça. Donc moi, il fallait que je replonge 35 ans en arrière, donc j'avais gardé des souvenirs très forts, j'ai une mémoire émotionnelle très forte, mais je voulais pas un document, moi ça m'intéresse pas. Mon premier roman, Cavalcade, c'était pareil, je voulais que ça soit écrit, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie réflexion, j'avais, disons, le fond, l'histoire, mais je n'avais pas la forme. Et quand je commence à écrire, il y a toujours les 30-40 premières pages qui sont les plus difficiles parce que c'est là où je vais donner la forme de mon roman, c'est-à-dire comment je présente l'histoire, les chapitres, quelle taille ils feront, combien de pages, qui je vais mettre en avant. Tout d'un coup, il y a des personnages que je mets en perspective auxquels je n'avais pas pensé. Il y a le phénomène de la mémoire qui revient. Et finalement, c'est tous mes rapports avec Truffaut qui étaient très précis. Parce que je savais que par rapport à lui, je voulais pas mentir, que par rapport aux gens qui aimaient Truffaut, il fallait qu'ils retrouvent le son de sa voix. Et puis par rapport au tournage, à Eva, enfin, il y a plein de choses comme ça que je ne pouvais pas trahir. Mais encore fallait-il replonger 35 ans en arrière et faire un travail de romancier. C'est-à-dire, je suis retourné à Thiers, j'ai revu les décors du tournage, j'ai revu cette petite auberge dans la montagne où on était, où je me languissais, où les nuits étaient interminables. Et j'entendais le nightclub du dancing avec les... Donc ça, c'est un vrai travail de romancier que j'ai aimé. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Parce que c'était à la fois facile, bizarrement, paradoxalement, et en même temps difficile, parce que je retrouvais des choses que j'avais perdues, comme si j'étais sur la trace de l'enfant que j'avais été.
Vous évoquez le mot la musique de François Truffaut, et en vous entendant, je me dis, tiens, dans le fond, en lisant le livre, j'ai eu le sentiment à certains moments dans le phrasé qu'il y avait presque, non pas la musique des films de Truffaut, mais presque la musique de sa voix.
C'est la première chose que j'ai entendue chez Truffaut. Et c'est ça aussi qui a déclenché le fait de ce roman. Parce que j'ai retrouvé au cours d'un déménagement il y a 2 ans plein de lettres, de photos que j'avais avec lui. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, j'ai quand même vécu quelque chose de merveilleux. Puisque j'ai des neveux maintenant qui ont 14-15 ans, qui se posent des questions sur leur avenir, qui ont peur. Et puis le jour où l'après-midi où j'ai décidé de commencer à écrire sur Truffaut, enfin en tout cas de récolter des documents, le soir j'ai eu une insomnie et j'ai retrouvé sur France Inter une radioscopie de Jacques Chancel, de Truffaut, et là j'ai entendu sa voix et elle me parlait comme s'il était à côté de moi, et je me suis dit que voilà, il y avait tout en fait dans Truffaut, il y avait sa voix collée avec son physique, avec son intelligence, avec son amour du cinéma, la littérature, son regard sur les femmes, et finalement c'est cet homme tout entier qui a posé sa main sur mon épaule quand j'avais 14 ans, qui m'a parlé comme un grand. Il m'a pas infantilisé, il m'a ouvert la voie, il m'a appris un métier, et finalement, à part les profs qui m'ennuyaient, mes parents qui m'ennuyaient, les curés qui m'ennuyaient, c'était le premier homme qui me regardait avec un beau regard.
C'est peut-être aussi le premier homme qui vous a regardé en tant qu'être humain et pas en tant qu'appartenant, soit à cette longue fratrie, soit à un quartier, soit à une... Parce que vous parlez de vos ancêtres...
Oui. Ça, c'était pour planter le décor à Versailles, Louis XIV.
On remonte loin.
Ça, j'ai bien aimé, parce que une fois que ce premier chapitre est parti, j'avais planté le décor et on voyait le petit garçon. D'ailleurs, comme je travaille sur l'adaptation cinématographique, ça me fait beaucoup rire, parce que je vois plein d'images très fortes, du poids de Versailles, de mes ancêtres, de mes aïeux, et puis finalement François Truffaut s'appelait à la fois, était le père de, son père était Roland Lévy, il l'a découvert sur le tard, mais donc il avait un père qui était juif, une mère issue de la petite noblesse auvergnate, Janine de Montferrand, donc il avait un peu ce mélange, mais c'était quand même un matiti parisien. Il avait quand même des allures de dandy, c'était quelqu'un de très lettré, mais il était très malin. Mmh. Il était très malin et je pense que quand il m'a vu arriver, il a dû rigoler. Mmh. Parce que moi, je voulais faire du cinéma en me disant je vais m'acheter une mobilette pour avoir une salle biplace, avec une salle biplace pour aller chercher des filles à la sortie des cours. Enfin, on s'est entendu, quoi, on s'est compris. Mmh. Il a compris que j'étouffais dans mon carcan de milieu versaillais, austère et ennuyeux. Et il a compris que je voulais m'en échapper.
Est-ce que d'une certaine manière, il n'a pas vu en vous, lorsqu'il vous a rencontré, non pas ce qu'il avait été, mais ce qu'il aurait pu être? Et est-ce qu'en écrivant ce livre, vous n'avez pas projeté d'une certaine manière dans l'approche romanesque une image d'un François Truffaut presque idéal?
Non, je ne l'ai pas idéalisé parce que ce que je dis sur lui, sur sa vie, ce que je révèle, sur ses maîtresses ou les femmes...
Idéal, je veux dire dans le sens, idéalisé
oui.
par vous.
Oui.
Par,
ah, oui.
La projection que vous donniez, vous, à 14 ans, de ce qu'était un homme...
Oui, parce que c'était un... Moi, je l'ai connu une période magnifique de sa vie. Hein. Bon, il sortait de son chagrin d'amour à Catherine Deneuve, mais je trouve que c'est l'époque de la vie où il est le plus beau, parce qu'après, il va tomber malade. Donc, il a tous les honneurs. Il a eu l'Oscar Hollywood pour La Nuit Américaine. 3-4 ans après, il a les 10 Césars pour Le Dernier Métro. C'est un homme vraiment accompli. Donc, moi, je suis assez fasciné. Et puis, au départ, je ne le connais pas, mais plus je le connais, plus il m'intimide. Et c'est pas que j'ai voulu l'idéaliser, mais dans ma tête, je me disais, il faut absolument qu'il me donne un deuxième rôle. Donc, c'est comme s'il détenait une clé, hein, mm-hmm. en me donnant un rôle. Il donnait un rôle à ma vie, à mon destin. Et c'est comme s'il avait une. Et j'ai beaucoup souffert d'ailleurs après, parce que je me suis dit, Truffaut mort. De toute façon, mon métier d'acteur, c'est un peu effiloché. J'avais des rôles de plus en plus courts, mais je me suis senti un peu orphelin. Parce qu'il était le premier metteur en scène de ma vie. Au sens large du terme, et que c'est vrai que je l'ai peut-être idéalisé dans un sens de guide, de grand frère, de père de substitution, de quelqu'un qui allait montrer ma voie. Donc j'ai beaucoup, c'est vrai, j'ai beaucoup, je pense, fantasmé dans cette relation.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il fallait cette forme romanesque pour le raconter, et c'est peut-être pour ça, je reviens à l'interrogation de départ, que c'est effectivement un roman.
Oui, c'est un roman. C'est un roman, et je pense qu'il aurait fait plaisir. Parce que il y a des moments, je suis dans la distance, il y a des moments, je suis très près, je ne le juge jamais. Je constate, quand je parle de la façon dont il cueille Isabelle Adjani à l'Académie française, puis des petits dans mes enquêtes, de gens que j'ai rencontrés, son rapport avec les femmes, avec le fétichisme, ses répliques qu'il replaçait dans plusieurs films, ce côté malin que j'aimais beaucoup chez Truffaut, c'est évident que. Voilà, que c'était une rencontre totalement inoubliable. Et puis, comme lui travaillait beaucoup, je veux dire, sur ses scripts, sur sa façon d'écrire, sur sa tonalité, et encore plus quand il était acteur, comme dans L'Enfant Sauvage, il avait cette espèce de ton comme ça que Spielberg a adoré tout de suite. Ce ton un peu français, mais en même temps, voilà, sensible, intelligent, pédagogue. Voilà, je me suis dit, je vais pas faire. Voilà, il faut que ce roman il soit quand même à la hauteur. Vraiment, c'était. Oui, c'est ce que je me suis dit. Il faut pas que ça soit décevant. Il faut que les gens qui ont adoré Truffaut me disent, OK, Bruno, t'as pas trahi quelque chose. Que ça soit pas, je dirais, d'une manière un peu vulgaire, putassier, que j'essaie pas de récupérer quoi que ce soit. Que ça soit juste.
Vous évoquiez l'enfant sauvage. Dans le fond, on pourrait se dire que ce roman, vous étiez en train de vous interroger. J'espère que le livre lui aurait plu s'il avait pu le lire. D'une certaine manière, c'est un peu le défi que se pose François Truffaut, le personnage dans l'enfant sauvage, vis-à-vis de cet enfant. Est-ce que ce à quoi il le mène est vraiment ce qui le rendra heureux?
Bah oui, parce que c'est le fondamental de l'enfance de Truffaut. C'est-à-dire rejeté par sa mère. Roland Truffaut, donc son père adoptif, c'est quand même beaucoup occupé de lui, mais Truffaut était un rebelle dès son plus jeune âge parce qu'il n'a pas été aimé par sa mère. Sa mère disait mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fous entre mes pattes? Et toute sa vie finalement Truffaut était à la recherche de son enfance. C'est pour ça qu'il avait un regard extraordinaire. On dit souvent qu'on reproduit son enfance, lui c'était tout le contraire. Il avait détesté son enfance. Il s'était tout de suite d'ailleurs échappé dans le cinéma, dans les salles obscures. Et c'est pour ça qu'il avait ce regard sur la jeunesse, sur l'enfance. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'a donné beaucoup de choses jeune, à 14-15 ans, et une fois que j'ai grandi, une fois que je suis devenu un jeune homme, c'est vrai que l'intéressait moins, parce qu'il considérait qu'il avait fait peut-être un peu son travail de metteur en scène, un peu de guide, et puis, non, c'était, voilà, il m'avait donné ce qu'il avait à me donner.
Dans le rapport fils-père, je pense à cette séquence, je dis séquence, parce qu'on verra après la disposition des chapitres, à cette séquence dans votre livre, où quand vous apprenez à votre père, je pense, si je me souviens bien, ou à vos parents, en tout cas, vous allez travailler pour Truffaut, eux associent Truffaut à un pépiniériste, oui. Les grains de Truffaut. Et est-ce que là, ce n'est pas aussi quelque chose qui finalement était fondateur pour vous, qui est que un père, vous êtes trouvé un père en Truffaut.
Oui, parce qu'en fin de compte, on idéalise toujours. Moi, j'adorais mon père. Bon, là, je lui donnais un rôle de colonel jardinier. Dans la ville, il était colonel, mais je veux dire, il m'a pas appris ce que j'aurais voulu qu'il m'apprenne. Il m'a aimé, je le sais. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que tout d'un coup, et même ma mère qui m'avait accompagné au bureau du film du Carrosse, en voyant toute la bibliothèque de Truffaut, elle se sentait petite. Parce que tout d'un coup, on avait face un homme intelligent, un homme de culture, et moi, je me suis retrouvé assoiffé. C'est-à-dire, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas lu? Pourquoi on m'a pas appris? Pourquoi on m'a pas dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça? Et finalement, bon, j'adore mes parents, mais j'ai trouvé qu'ils m'ont élevé un peu comme un saltimbanque dans une famille de 7 enfants. Et voilà. Et Truffaut avait sûrement, dans la littérature, dans le cinéma, il avait plein de choses. Bon, c'était pas du tout un professeur, mais il distillait comme ça des conseils. Tu devrais lire ça, tu devrais faire ça. Et puis, quelque part, il m'a empêché de partir au Liban. C'est drôle, hein. Quand j'ai voulu être militaire, parce que lui était déserteur pour l'Indochine, et là tout d'un coup il m'a parlé comme un père.
Alors, oui, c'est la première fois qu'il prend une décision à votre place. Il vous sauve la vie d'une certaine manière.
Sûrement, parce que c'était 82-83, un peu avant.
Racontez un peu, parce que vous vouliez vous engager au Liban, c'est ça? Vous vouliez quasi être volontaire, alors que vous auriez pu vous planquer.
Surtout avec un père colonel. Mon père aurait pu me. Voilà. Et j'avais envie d'aventure, j'avais soif sûrement de régler des comptes avec mon adolescent. J'avais envie de. Puis j'étais fasciné par Liban, par les écrivains orientalistes, par Pierre Loti, par Rimbaud. Enfin voilà, je voulais partir pour Nazelle, Charles de Foucault, et donc je voulais vivre quelque chose de romantique, être casque bleu à Beyrouth. C'est une ville qui m'avait toujours fasciné, le Liban. Et puis j'en parle à Truffaut comme ça au cours d'une rencontre, de ces fameux petits guet-apens, parce que j'essayais toujours de savoir où il était, à quelle heure et tout ça. Et là, sa réponse, elle a été cinglante. Il me dit, Bruno, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ça ne vous regarde pas, vous êtes jeune, votre carrière commence, c'est une idée idiote. Enfin, voilà, ça m'avait dit, voilà, il a peut-être raison, quoi. Et oui, peut-être il m'a sauvé la vie, oui, ça c'est sûr.
Non, et en plus, quand il vous dit ça, il n'y a pas une ombre d'hésitation. On n'en discute même pas.
C'est sans appel. Voilà. Et en même temps, un autre m'aurait dit oui, tiens, finalement, non, lui, non. On ne plaisante pas avec ça, on ne plaisante pas avec la vie. Voilà, un militaire, il avait peut-être oublié que mon père était colonel, que je voulais. Voilà, mais il s'en foutait. Pour lui, ce n'était pas ça. La vraie aventure, c'était l'aventure de la vie. C'était peut-être de me consacrer à mon métier, de travailler plus, de. Voilà. Quelque part, peut-être qu'il voulait me dire, je t'ai donné un rôle, alors accroche-toi. Sois à la hauteur de ta tâche.
Vous dites qu'il s'en foutait, mais peut-être aussi qu'il ne voyait en chacun qu'un seul individu, qu'une seule personne.
Oui, c'est sûr, un seul destin. Un seul destin, et je me souviens d'une discussion que je n'ai pas mise dans le livre, mais où un jour je l'avais croisé, j'étais un peu triste. Il m'avait dit, Bruno, n'attendez pas le rôle de votre vie, il ne viendra jamais, écrivez-le, inventez-le. Mais il me donnait un peu un coup de pied dans les fesses en me disant, ne tombez pas dans la mélancolie du comédien, c'est trop facile, bougez-vous les fesses, parce que lui, toute sa vie était tellement avec les séances de cinéma, avec ses projets de films, avec ses rendez-vous, que voilà, il n'y avait pas de temps mort, hein, comme il dit dans la nuit américaine, la vie c'est comme un long train qui roule dans la nuit, qui ne s'arrête pas.
Alors on va un peu parler de la construction du roman, parce qu'il y a des romans qui sont des romans bibliothèques. Quand on les lit, on se dit, tiens, on a envie de lire 50 livres après. Ici, on a envie de lire je ne sais plus combien de films de la filmothèque. Et ça, c'est très truffaldien aussi. Hein.
Oui, parce que j'ai mis pratiquement plein de films que j'ai vus et que Truffaut adorait, mais en même temps, comme il est mort en 84, j'ai mis des films qu'il aurait beaucoup aimé. Je pense à L'été en pente douce avec Pauline Lafont, Jacques Villeray, Bacri, et puis je voulais que quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, bon, je vais avoir des chapitres courts. Les chapitres courts se sont imposés d'eux-mêmes, et je me suis dit, il faut que je leur... Alors, le premier, Noblesse oblige, forcément Versailles, l'arrivée de mes ancêtres, et puis après j'ai fait un vrai travail, c'est-à-dire dans tous les documents que j'avais, le carrosse d'or de Renoir, puisqu'il appelait ses productions de films, les films du Carros. Et puis comme ça, un travail, puis je me suis dit, après tout, je rends hommage à Truffaut, donc rendons hommage au cinéma, au film qu'il aimait, au film qu'il aurait pu aimer. Là, à ma manière, j'ai repris ma propre bande originale de l'été 75, avec toutes les chansons qui arrivaient, qu'on entendait dans les bals de l'époque, les bals du 15 août. Ça, je trouvais ça très, très beau, parce que moi, j'avais 15 ans, et ça, voilà, c'était fantastique. Et puis tout ce petit construction à la fin, avec ce chapitre fantôme, je ne sais pas si ça a déjà été fait en littérature, mais je sais que c'était fait en musique, c'est-à-dire que le CD se termine, la deuxième chanson se termine, et on oublie le CD, et tout d'un coup, il y a une chanson comme ça, un peu fantôme, miraculeuse, qui arrive, et j'ai fait la même chose, et puis qui boucle. C'est-à-dire qu'il termine par, on va pas le dévoiler au lecteur, mais qui termine.
Enfin, même le chapitre fantôme, il vaut mieux ne pas trop le dévoiler, parce que c'est vrai que c'est très lié à la technologie digitale. Donc c'est en quelque sorte l'introduction d'une technologie digitale dans le romanesque.
Et puis d'un monde qu'on n'a pas connu, François. Et d'ailleurs, je pose la question vers les derniers chapitres en disant, mais comment il aurait été Truffaut dans notre monde d'internet? Je pense qu'il aurait beaucoup aimé, parce qu'il c'était quelqu'un d'extrêmement curieux, qui adorait les actrices. Donc il aurait revu des vieux films, il aurait plongé dans des archives, il aurait commandé des films, parce que lui il achetait des bouquins. Donc je pense qu'il aurait été boulimique de ça, donc pas du tout décalé par rapport à ça, et puis qu'au contraire ça leur aurait permis de communiquer avec ses amis japonais, américains, néo-zélandais, australiens, enfin dans le monde entier, avec cette distance qu'il préférait, qui était la distance de l'écrit. Parce que Truffaut, la distance humaine qu'il préférait, à part les femmes, c'était la distance de l'écrit.
Dans le fond, c'est le goût de l'écriture, ou la nécessité de l'écriture, vous est venu après l'accident qui en 1996. Oui. C'est à ce moment-là que vous avez éprouvé le besoin de trouver un langage. Est-ce que c'était parce qu'il fallait témoigner ou parce que ce langage-là était en vous déjà avant l'accident?
Il était en moi parce que les matières où je me sentais le plus à l'aise, c'était le français, la philo, et puis j'ai pris des cours de scénario parce que j'avais une copine qui était à l'American Film Institute, et puis que très jeune comédien, et puis ayant des rôles qui me rendaient pas heureux, cette petite phrase de Truffaut quand même avait tilté dans mon oreille en me disant le rôle de ma vie ne viendra jamais, donc il faut écrire. Donc j'ai commencé à travailler, mais disons, je le dis avec beaucoup de sympathie, j'ai écrit beaucoup de conneries, hein, des sketchs, des trucs pour la télé, des sitcoms. Il y a peut-être un gars et une fille, la première saison, où j'étais assez content parce que ça fonctionnait très très bien, et voilà. Mais en fait, pendant des années, j'ai écrit la musique aussi, hein, j'étais auteur, parolier, et c'est vrai que quand j'ai eu mon accident en 96, il fallait déjà que je travaille, donc il y avait une espèce d'urgence comme ça pour pallier à l'handicap et pour mon quotidien, pour financer mes aides, enfin ma nouvelle vie en fauteuil roulant. Que je ne pouvais plus me servir de mes mains ou très mal, donc plus de musique, donc il fallait que je passe par l'ordinateur, donc je pouvais quand même écrire. Et puis j'avais quand même tout ce passé d'auteur un peu, voilà, j'avais deux romans qui avaient été vus par Grasset et qui n'avaient pas eu de chance et qui étaient, je pense, pas très très bons, mais j'avais quand même l'expérience de l'écrit, et je voulais aller plus loin, quoi. Et donc la première expérience, forcément, c'était Cavalcade. Et là aussi, je me suis dit, ok, j'ai vécu une histoire incroyable, comment je vais la raconter? Donc il y avait un travail de littérature, c'est-à-dire par rapport avec ce qui a déjà écrit sur les épreuves de la vie, sur la tétraplégie, sur les accidents, la vie qui s'immobilise comme ça du jour au lendemain. Donc il y avait quand même un travail de littérature. C'est pour ça dire qu'il a plu aux gens. Et puis c'est vrai qu'il y a eu la reconnaissance, ça a été formidable. Le livre s'est traduit en 15 ans, qui devient un film au cinéma, c'était une grande récompense de la vie, par rapport au destin, à ce qui m'était arrivé.
Donc, d'une certaine manière, vous répondiez au conseil de François Truffaut, oui. Écrire le rôle de votre vie, qui devient un film.
Voilà, exactement, ça c'était purement...
Même si vous n'avez pas choisi, évidemment.
C'était, voilà, et je pense que si... Je me suis dit, j'ai pensé à lui parfois dans mes nuits d'hôpital, en disant, il m'aurait écrit une lettre, il m'aurait dit, Bruno, tenez bon, si vous êtes vivant, c'est que vous devez vous accrocher, vous qui aimez la musique, écrivez. Enfin, je pense qu'il aurait, je le sais, il m'aurait sans doute écrit. Et puis, étant musicien, étant très sensible aux voix, au tempo de la vie, du rythme et tout ça, et du scénario, il était évident que, et puis aussi poussé par la nécessité d'un, je ne veux pas dire d'un message à délivrer, mais de quelque chose à dire d'important pour moi, pour mon vécu, pour ma vie, pour mon avenir, j'ai commencé vraiment à, voilà, à écrire, à travailler, à lire. Bon, j'ai toujours beaucoup lu, mais à me dire, ok, maintenant, si je deviens vraiment un écrivain, voilà, il faut vraiment que... Puis la langue française, c'est une belle langue, donc on va travailler vraiment d'arrache-pied.
Bruno de Stavenrath, je vous remercie pour cet entretien.
Merci.
Et puis, je vous remercie pour ce livre dont je rappelle, pour ce roman dont je rappelle le titre, Je n'ai pas de rôle pour vous, qui d'une certaine manière nous réconcilie avec ceux qui ont connu Truffaut, avec la figure extraordinaire de Truffaut, et puis nous permet, en ce qui me concerne en tout cas, de découvrir un romancier. Et je sens que François Truffaut avait de l'intuition en vous disant écrivez votre vie, cher Bruno. Voilà, merci Bruno.
Merci beaucoup.
Rencontre d'Edmond Morel.